Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous donne plein de bonne humeur, de joie et de bonheur en vous recommandant des choses, des émissions de télé, des films, des séries, des BD, des choses parfois un petit peu étranges. J'anticipe un petit peu sur les recommandations de cet épisode, mais toujours de très grande qualité qui vous mettront de bonne humeur a priori. Je m'appelle Patrick Béja. Oui, c'est sûr, non ?
Mais c'est sûr.
Évidemment. Je m'appelle Patrick Béja et cette voix suave que vous entendez dans le fond, là, juste à côté, c'est celle de mon frère Daniel Béja, qui est l'un des deux invités de cet épisode, de cette session de Positron.
Moi, je reste très silencieux.
Mais c'est bien, parce que j'aime pas tellement être interrompu.
Je suis
d'ailleurs, il faut que
en fait,
je te parle. Ah oui, c'est ça. C'est pas silencieux, c'est mystérieux.
Voilà, c'est les deux.
Donc, je suis Patrick Béja, je suis avec Daniel Béja et Gabriel Katz. Qui est mystérieux. Comme je le dis, toi, ça commence bien. Comme je le dis depuis le début de cette session de Positron, nous avons de véritables artistes dans cette émission. Très fiers d'avoir des gens qui contribuent à la culture avec un grand C. Ouais, n'est-ce pas?
Je me mets la pression.
Ouais, ça s'écrit avec un C, culture?
Non, avec un grand C, tu vois. C'est...
Ah.
Bon, ok. Et donc, on va vous recommander trois petites choses sympathiques aujourd'hui. Et je vais commencer, hein, pour faire dans l'originalité, je vais commencer avec un truc qui est très difficile à définir. En fait, c'est... comment il s'appelle déjà ? Ça y est, j'ai perdu le nom et je vais très vite le retrouver en essayant de meubler discrètement.
Truc,
Pardon ?
Je vous conseille un truc, mais je sais pas trop ce que c'est.
Oui, c'est ça. Bien. Joseph Gordon-Levitt. Vous connaissez Joseph Gordon-Levitt ?
Je connais qu'un des trois.
Ouais. C'est un acteur, chanteur, réalisateur d'ailleurs, que vous avez peut-être vu dans 500 jours ensemble, 500 Days of Summer en anglais.
Ça m'a pas rendu fou.
Mais c'est toi qui es fou. C'est très bien ce film. Il a réalisé Don John récemment. Il était dans The Dark Knight, l'un des Dark Knight, le dernier, je crois, etc., etc. C'est un acteur, un jeune acteur montant de la scène américaine. Et en fait, il fait depuis un certain temps une initiative super bizarre qui s'appelle Hit Record. Hit Record sur hitrecord.org, c'est un site de création d'œuvres totalement collaboratif. C'est-à-dire que c'est une sorte de réalisation d'un des fantasmes d'Internet qui est que n'importe qui peut participer à la création d'une œuvre, n'importe qui, que ce soit des artistes ou de simples internautes, ou des peuvent être mis en relation grâce au formidable réseau Internet et créer des choses. Donc c'est une sorte de communauté, on crée un compte et il y a des gens qui vont proposer un projet et dire « alors voilà, moi j'ai besoin de tant de dessins, tant de morceaux de musique, tant de textes, tant de vidéos où vous faites ceci, cela ou tel truc ». Et il va expliquer son projet et n'importe qui peut lui envoyer des productions, ce qu'il peut, ce qu'il veut, pour contribuer à la création de cette œuvre. C'est un truc complètement libre, complètement ouvert, qui, comme je le disais, réalise le fantasme du travail collaboratif. Mmh. Alors, il a créé ce truc il y a plusieurs années, hein, ça existe depuis longtemps. Et la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est que il y a une version série télé du site, en quelque sorte, qui vient de sortir aux États-Unis. Et il y a le premier épisode au moins qui est disponible gratuitement sur YouTube. C'est une série télé de, enfin ça fait, c'est un format court, hein, ça doit être 22 minutes où ils présentent genre 3 ou 4 projets. Et en fait, j'ai découvert le site par la série télé. Il en parlait, je sais plus où, et j'ai suivi le lien. Et au début, tu comprends même pas ce qui se passe, quoi. La communauté It Record est complètement, enfin existe vraiment, elle est hyper motivée, hyper présente, et il arrive sur scène avec son micro et il est en terrain conquis, tout le monde hurle, et là il arrive et il dit bonjour, bienvenue sur Hit Record on TV, c'est le nom donc de la série, et vous pouvez, c'est la seule émission de télé où vous êtes encouragé à sortir vos téléphones et à enregistrer ce qui se passe, et là tout le monde devient fou, tout le monde sort ses téléphones, enfin tu sens qu'il y a vraiment une complicité dans cette communauté de gens qui travaillent dans une même direction, dans un but commun pour créer tous ces trucs, et lui a un charisme totalement fou, bien sûr. Pardon, je sens qu'il y en a un qui va dire une connerie là, qui va me couper élan.
Pas du tout, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc c'est une sorte de site où des gens lancent des projets. Par exemple, quelqu'un peut avoir une idée de court métrage ou je sais pas de film, et il va demander, j'ai besoin d'une scène avec quelqu'un qui fait à manger. Et là, les gens se filment en train de faire la scène
par
qu'il
exemple.
A demandé. Et
ça peut être ça, mais ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que généralement, c'est plutôt bon. Moi, je sais filmer et j'ai deux acteurs là, mais on n'a pas de musique, on n'a pas de générique, on n'a pas de, on a l'idée du truc, mais on n'a pas les dialogues. Donc, il faudrait que quelqu'un écrive. Tu vois, c'est vraiment des pièces qui s'imbriquent les unes avec les autres. Mm-hmm. C'est pas simplement vous allez filmer telle scène et vous allez filmer telle scène et puis au final, on va les mettre ensemble. Ça marcherait pas. Tu vois, le produit serait pas de bonne qualité parce que l'un aurait rien à voir avec l'autre. Il y a des trucs animés, par exemple. Il y a des gens qui vont fournir des dessins ou des animations ou qui vont fournir les personnages, les autres vont les animer, etc. Il y a beaucoup de trucs comme ça.
Et ça marche.
Et ça marche, mais c'est ça qui est incroyable. Et c'est le genre de truc.
Pour tout domaine, pour la musique, par exemple, genre je fais un groupe avec plein de bassistes, on n'est que deux bassistes, on en cherche un troisième, ça marche pas.
Ouais, si tu veux créer les bassistes, tu pourrais, par exemple. C'est vraiment, l'idée, c'est la plateforme qui va mettre en relation les gens pour qu'ils fassent, qu'ils créent des trucs. Et quand je dis des trucs, c'est vraiment, enfin, il ne faut pas penser juste à de la musique ou des films, hein. Il peut y avoir n'importe quoi. Il y a des trucs animés, il y a des petites, enfin, il y a vraiment de tout.
Et bon, moi, je me suis servi déjà. Hein. Est-ce que quelqu'un pourrait écrire pour moi un bouquin de fantasy?
toi, tu as plutôt répondu aux annonces des gens qui voulaient écrire des bouquins.
Ouais, plutôt, oui.
Et donc, ce premier épisode Hit Record on TV présente 3 ou 4 projets différents. Et donc, comme je le disais au début, tu comprends pas ce qui se passe. C'est genre des gens complètement fous qui vont, qui crient quand Gordon Levitt arrive sur scène. Et au fur et à mesure, tu comprends un petit peu ce que c'est que le système, et tu vois les projets qu'ils ont réalisés. Et il y a des trucs vraiment, vraiment intéressants, quoi, des trucs bizarres, des courts-métrages. Il y a des trucs qui combinent des dessins, des trucs animés, avec des vrais acteurs, des gens qui ont une nana qui a écrit l'un des trucs qu'ils racontent, par exemple, c'est une nana qui a écrit une histoire qui n'arrive pas, qui a des problèmes de vue, qui n'arrive pas à bien voir les étoiles, et son père un jour a acheté des lunettes de vision de nuit militaire. Et donc, elle a pu, pour la première fois, vraiment voir les étoiles grâce à ses lunettes.
Je crois que ça voit pas très très loin, les trucs militaires.
Eh ben, écoute, là, tu sais, c'est juste un truc qui amplifie la lumière. Et donc, elle voyait en vert. Ouais. Enfin, bref, là elle voyait. Et elle a écrit son histoire. Il y a des gens qui l'ont filmé avec des parties animées. Il y a des gens qui ont fait la musique, etc., etc. Bref. C'est un ovni, un truc étrange qui est complètement unique et qui est vraiment intéressant et intrigant. Donc ça s'appelle Hit Record on TV. Vous pouvez trouver ça sur YouTube facilement. Le premier épisode au moins est disponible en streaming. Et voilà. Et c'est un truc à regarder. Je sais pas comment le définir, mais au moins c'est intéressant. Donc je vous le recommande.
Étonnant, effectivement.
Ouais, c'est surprenant, hein. Et oui, donc je dis, vous pouvez le regarder sur sur YouTube, mais c'est aussi le site, hein, hitrecord.org, sur lequel vous pouvez aller regarder ce qui se passe. Donc bon, premier truc complètement bizarre de
cet épisode. En fait, ça pourrait être, enfin, c'est des gens qui ont pas de thunes pour payer, qui demandent à Internet de le faire gratos.
Mais, tu sais, c'est
je suis mauvais. Hein.
C'est la, non, mais c'est la vision un petit peu cynique du truc. Mais quand tu vois la série et quand tu vois le site, tu te rends compte que c'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment une communauté quoi, c'est des gens qui travaillent ensemble pour faire des trucs intéressants. Donc voilà. Hit Record on TV. Bon, au lieu de dire de faire ton vieux con là, est-ce que tu as plutôt un truc cool à nous recommander, Dan?
Oui, mais il fait pas le vieux con, il est en train de surveiller le portefeuille des gens pour pas qu'ils se fassent avoir. c'est la noblesse de cœur.
C'est vrai, c'est vrai.
J'ai un truc hyper cool à vous recommander et en plus ça parle de Django. On va croire que je suis complètement maniaque.
T'es un petit peu obsédé là quand même.
Oui, je suis resté dans les années 40, désolé. Mais il se trouve que c'est une BD de Johan Sfar et Clément Oubrerie qui s'appelle Django, parce qu'il faut savoir que cet homme Django a une histoire incroyable. C'est vraiment un roman, sa vie. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Il a commencé par jouer du banjo, ensuite il s'est mis à la guitare.
Il a commencé par jouer du banjo avant de se mettre à la guitare.
Après la guitare,
après.
C'est ça. Et au moment où on lui propose d'aller se produire à Londres, où il commence à être connu, il se fait brûler les doigts, enfin la main, le corps entier dans sa roulotte. Et il reste des mois à l'hôpital. Bah oui, c'est quand même triste. À essayer de se rééduquer pour continuer à faire de la musique. Et il se trouve que Johan Sfar est fan un petit peu de cette musique-là et il en a fait une BD complètement délirante qui s'appelle Django Renard. Alors c'est l'histoire d'un petit hérisson. D'un petit hérisson qui accompagne donc ce Django Renard qui est un renard qui fait de la musique. Okay. Et c'est complètement loufoque, il part dans tous les sens. Alors il connaît vraiment l'histoire hein, de Django, parce qu'il suit vraiment un petit peu ce qui lui est arrivé. Mais il part dans tous les sens, il y a des délires complètement fous. C'est un peu du Johan Sfar, c'est lui qui a fait le scénario et c'est Clément Oubrerie qui a fait les dessins. Et je vous le recommande, je pense que ça marche pour tous parce que c'est vraiment pas du tout c'est pas du tout basé que sur le jazz manouche ou sur la vie Django. Vraiment c'est, il y a des délires, il parle de c'est un petit peu Cato même par moment, c'est assez étonnant. Les dessins sont assez simplistes, mais c'est pas vraiment pour les enfants.
Bah, il y a un univers très étrange quand même. Hein, Johan Sfar, le chat du rabbin, c'est super bizarroïde, c'est très sympa. Il y a même son film sur Gainsbourg est complètement barré. Ouais.
Entre parenthèses, dans le film sur Gainsbourg, petit easter egg, si vous réussissez à voir Daniel Béja, vous gagnez une félicitation. Puisque Daniel Béja apparaît discrètement à un moment dans le film.
Ouais, vraiment très discrètement. Ah bon, ce n'est même pas la peine de le mentionner.
Dan, t'as ton micro qui est un petit peu trop près de la bouche là.
Il y a une espèce de monstre à un moment. Il grandit beaucoup.
Non, c'est pas lui.
Non, c'est pas lui.
Non, c'est pas ça.
Non, dans sa chambre. Là.
Je fais du banjo pendant 3 secondes quand. un moment dans un bar, bref. Donc, Django, la BD de Johan Sfar et Clément Oubrerie, c'est vraiment hyper drôle, hyper amusant, et en plus, ça parle de Django.
Ah, très bien, très bien. mais dis-moi, du coup, ça veut dire, c'est une BD qui est bien pour une BD, ou c'est une BD qui est bien parce que c'est Django et que t'aimes Django?
Bah, c'est sûr, c'est un petit peu mieux si tu connais le personnage parce qu'il retrace un petit peu sa vie, mais c'est vraiment hyper amusant. Il part dans tous les sens. Enfin, il est très dans ses textes. T'es mort de rire, quoi. Donc c'est vraiment.
D'accord. Donc ça a une valeur en tant que BD, même si t'aimes pas Django.
Ah oui, bien sûr.
D'accord. Ok.
Voilà, donc, c'est le premier épisode. Hein. Il y en a d'autres. Il est sorti fin 2012, il me semble, ou début 2013. Donc on attend la suite. Le premier s'appelle Renard Manouche.
Ok. Donc c'est Django. Et pour ceux qui ont... pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Django, J-E-A-N-G-O-T. Genre voilà, Jean, quoi. Django.
C'est ça.
Très bien. Bon, là, effectivement, c'est aussi un truc un petit peu délirant. Gabriel, de quoi donc vas-tu nous parler donc?
Disons que moi, je me suis ruiné il y a quelques positrons déjà mon image d'un télo en présentant Mad Max. C'était quand même quelque chose d'un petit peu bizarre. Oui. Donc là, je vais aller un petit peu plus loin.
D'accord.
En conseillant, dans ces tristes périodes de crise, le loisir le moins cher de l'histoire du monde.
Le comptage de cure-dents.
Non. Donc, okay, ce comptage de cure-dents, effectivement, c'est pas très cher. D'abord, faut avoir des cure-dents, puis c'est un peu chiant, quand même, faut avouer.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Donc là, en fait, c'est comment jouer à peu près 10 ans avec 2 euros. En gros, c'est caricatural, mais c'est un peu ça. Faites des jeux de rôle.
Ah,
c'est assez infréquentable comme principe, mais c'est ça.
Notre jeune. Bon, en même temps,
mais assez ça rend pas fou. Après, tu vas pas dans des sectes.
Si, ça rend fou. Ça rend complètement fou. Ça fait des bouquins de fantasy. Après, c'est juste n'importe quoi.
Mais oui, en même temps, tu vois, tu dis bon, ça rend infréquentable. C'est un truc pour se ruiner son image. Je pense que dans Positron, le public est quand même relativement réceptif à ce genre de choses. Hein. Tu joues bien ton coup.
C'est pas plus mal, parce que par ailleurs, il y a des fois quand même, on me regarde un peu de traviole. Mais bon. Disons que ouais, donc j'essaye de faire un petit peu de pub pour ce loisir qui manifestement est un petit peu moribond. C'est-à-dire qu'il y a encore des magazines de jeux de rôle, il y a encore des éditions de jeux de rôle, etc. Ça se pratique plus tant que ça, le jeu vidéo s'est un petit peu remplacé, pas qu'un peu. Et en fait, c'est un truc qui est très amusant et pas cher du tout. Alors, il y a deux façons.
Explique le principe.
Il y a deux façons de pratiquer le jeu de rôle finalement. Alors, le jeu de rôle papier, comme on l'appelle, consiste à s'asseoir très bêtement autour d'une table. Deux, trois,
Gabon, quatre et plus. Tu frottes encore le micro à ton. Oui.
En fait, c'est de joie. Quand je parle de jeu de rôle, je frotte le micro. C'est tellement extraordinaire. C'est mon côté chien.
Donc, d'accord. Je vais pas commenter plus avant parce que ça peut partir dans des délires très très vite. Hein. Vas-y, continue.
Non, ça va pas plus loin que ça.
Enchaîner.
Donc le principe est assez simple. C'est totalement basé sur l'imagination. La seule chose dont on dispose, c'est du papier, un crayon, des dés. Et donc voilà, le principe est de s'asseoir autour d'une table à 2, 3, 4, 5. 5 me paraît être un maximum, après ça dépend des gens. Il y a un type qui fait office de maître de jeu et qui déroule un univers et une histoire et des braves gens qui ont une feuille de personnage qui est l'équivalent finalement d'un personnage de jeu vidéo sauf qu'on se le fait soi-même. Et ils vivent à l'intérieur de l'histoire en traduisant leur action par des jets de dés. Ça a l'air très très compliqué dit comme ça, ou pas du tout intéressant, et en fait c'est très immersif et très rigolo. Donc il y a un peu deux façons de faire. La première, c'est d'acheter dans le commerce des jeux de rôle qui existent, pour les gens qui n'ont pas une énorme imagination. C'est-à-dire, je m'achète la boîte de Donjons et Dragons, par exemple, c'est hyper connu. C'est quelque chose comme une trentaine d'euros, un truc comme ça. Et je suis ce qui est écrit dessus. C'est-à-dire, on m'explique comment créer mon personnage, comment rentrer dans le monde, comment avoir mes caractéristiques, comment savoir comment je traduis mes actions. Je jette un jet de dés pour savoir si oui ou non je peux sauter par la fenêtre.
Et t'as pris l'exemple qu'il faut, là.
Voilà, exactement. Il y a un descriptif du monde, il y a un descriptif, il y a un bestiaire, etc., etc. Donc, bon, on peut tout à fait se laisser porter, rentrer dans un univers existant. Et il y a la version « c'est la crise », qui consiste à créer son propre jeu. Bon, à vrai dire, nous, on a pratiqué la version « c'est la crise » pendant de très très longues années, et ça développe quelque part la créativité, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'on crée complètement des mondes, des univers, et dans ces mondes totalement virtuels, des joueurs jouent de façon totalement virtuelle. C'est une sorte de jeu vidéo avec pas d'image et pas de son.
Et pas de manette ça. Et pas de clavier.
Voilà.
Ouais. C'est sexy. Non, c'est vrai que bon, tu donnes les deux méthodes. Il faut savoir que bon, nous on a longtemps joué au jeu de rôle ensemble, hein, Gab. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, le Puits des Mémoires, qui est ta première trilogie, est basé sur un univers que tu avais créé pour un jeu de rôle auquel on jouait ensemble. Mais disons que moi, je recommanderais quand même pour les débutants de commencer avec un jeu de rôle qui est déjà, enfin qu'ils ont acheté, quoi.
Qu'il faut avoir un maître du jeu qui a une putain d'imagination et de la répartie et des idées à revendre, quoi, pour suivre les, bon, les
c'est
actions.
Le cas, quoi. C'est le cas du brillant Gabriel Katz. Voilà. Merci. Mais non, mais je veux dire, même au-delà de ça, au-delà de l'imagination et du talent d'écriture et de, faut être effectivement, je pense, un petit peu artiste, mais même au-delà de ça, le, au départ, te dire, te poser sur une table et dire, enfin, sur une table, te poser à une table et dire, bon, bah voilà, j'ai inventé un truc, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pas mal de commencer avec un minimum de structure pour essayer de voir comment vont gérer les interactions.
Ce qu'il faut savoir, c'est que très, très rapidement, c'est fluide, facile et immersif. Alors, le problème, c'est que c'est paradoxalement, et c'est une bonne idée d'en parler aujourd'hui, c'est très, très, très difficile à vendre. C'est-à-dire que quand on décrit le jeu de rôle, ça paraît ou inintéressant ou con. Or, c'est ni inintéressant ni con, c'est très très sympa. C'est-à-dire que c'est probablement un des trucs qui laisse les souvenirs à long terme les plus forts, au même titre qu'un très bon film ou une très bonne série. Quand on a une belle campagne de jeu de rôle, on s'en rappelle à peu près toute sa vie.
C'est sûr, ouais.
Parce qu'on a vraiment, vraiment l'impression de vivre dedans. C'est-à-dire qu'autant un film, bon, on regarde, on peut se mettre dans les pompes du héros, mais finalement, il lui arrive ce qui lui arrive dans le film, autant le jeu de rôle, on a l'impression de vivre à l'intérieur soit d'une série, soit d'un film, selon la durée de la partie.
Bah, peut-être, tiens, c'est pour expliquer vraiment aux gens comment ça se passe, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas du tout ce que c'est que les jeux de rôle. Le maître du jeu a donc en tête son univers et sa situation, ou alors sur le papier, hein, et puis les joueurs vont prendre connaissance de la situation et prendre des décisions. Et le maître de jeu, c'est le rôle du maître de jeu de d'imaginer et de d'expliquer aux joueurs ce qui se passe en fonction de la situation. Donc de scène en scène et de jour en jour et de semaine en semaine et d'année en année, même pour certains personnages, on va évoluer dans la situation et dans le scénario qu'a établi le maître de jeu. Donc concrètement, on est assis à une table. Toi, Gabriel, tu es maître de jeu. Tu dis bon, alors Patrick et Daniel, vous êtes des manouches dans un...
Je sens le jeu terrible.
Vous êtes des manouches, vous commencez à maîtriser le banjo, et là, votre roulotte brûle. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je dis, je suis trop triste, je pars faire des voyages pour tout oublier. Et Daniel, il dit, bah, moi je continue à jouer. Voilà, je m'en fous, même si j'ai que trois doigts.
Aucun des deux n'a éteint l'incendie. Mais bon,
bon, mais donc concrètement, c'est des conversations, c'est que des conversations, les jeux de rôle, en fait.
En fait, à l'origine, d'une certaine façon, c'était un peu l'ancêtre du jeu vidéo. C'est-à-dire que on disait aux gens, voilà, tu joues, alors l'un joue un gros barbare avec une grosse épée, l'autre joue un magicien avec ses boules de feu, je ne sais pas quoi. Ils avançaient dans des couloirs totalement virtuels pour ouvrir des portes encore plus virtuelles derrière lesquelles il y avait des monstres virtuels. On disait, voilà, tel monstre, il a tant de points de vie, si tu lui tapes dessus 2000 fois, il va tomber, et si tu te tues avant, eh ben, tu seras mort. Bon, ça c'était la base. C'était assez rigolo à l'époque, puis bon, au bout d'un moment, on vieillit, donc et puis on évolue, etc. Donc ça devient beaucoup plus scénarisé, les personnages sont beaucoup plus profonds, et au bout d'un moment, on glisse en fait vers du scénario de soit de film, soit de série, mais du vrai scénario étoffé en fait. Et les personnages s'étoffent au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont joué les mêmes personnages pendant des années et qui finalement les ont tellement ciselés qu'ils n'imagineraient même pas les perdre finalement.
Et quand tu le perds quand même, il y a de quoi, là, pour le coup, se jeter par la fenêtre, comme tu le disais tout à l'heure.
C'est un peu ça.
Ouais, alors, bon, on pourrait parler de jeux de rôle pendant des heures et des heures. C'est vrai que ça a représenté une immense partie de notre jeunesse, et je pense pour certains auditeurs aussi. Si vous n'avez jamais joué à des jeux de rôle, enfin, moi, je recommande d'essayer quand même avec un jeu de rôle que vous avez, enfin un coffret de jeux de rôle
basé sur un univers,
d'utiliser des manuels, etc. pour savoir un petit peu comment ça se passe, quitte à créer son univers après.
C'est
ça. Et un autre truc qu'il faut rajouter, c'est que si vous voulez à terme devenir scénariste, c'est pas mal, parce qu'en fait autour de moi, je suis moi-même scénariste en parallèle de ce que je fais en bouquin. Et il y a quand même pas mal de gens qui ont pratiqué ou qui pratiquent ce loisir, dont un pote qu'on a en commun avec Patrick justement, qui est Nico. Et on rencontre quand même pas mal de gens dont le jeu de rôle a complètement affiné les capacités scénaristiques, en fait.
Ouais. Oui, oui. Donc, ça vous sert à quelque chose en plus.
C'est ça.
C'est merveilleux.
Vous écrivez des scénarios de films, c'est pas beau.
bon, on avait essayé des tonnes de jeux de rôle quand on était plus jeune. Je ne sais pas si on est très au fait des jeux de rôle d'aujourd'hui.
Non, je ne pense pas. Je sais qu'il existe encore un truc qui s'appelle Jeux de rôle Magazine, puisqu'ils m'ont interviewé pour un bouquin il n'y a pas si longtemps que ça.
Ah oui.
Donc il y a encore une population de joueurs.
Et ah oui, il y a
des jeux qui sortent, des extensions qui sortent tout le temps. Mais bon, je pense que les dernières qu'on a regardées, c'était.
C'était il y a un moment.
Aucun des auditeurs n'était né.
Mais je pense que si ça vous intéresse, L'œuf Cube est un magasin parisien à l'époque qui existe encore visiblement. Enfin, en tout cas, il y a un site qui s'appelle L'œuf Cube. Ouais. Peut-être que vous pourriez aller regarder Geek Inc. ou demanderez à Cédric Bonnet. Oula, il y a quelqu'un qui frotte encore là.
Non, c'est pas moi.
D'accord. Donc demandez à Cédric Bonnet, tiens. Allez voir Cédric Bonnet et puis vous lui posez la question. Il y a des boutiques comme Games Workshop qui existe encore, si je ne m'abuse. Enfin, il y a des ressources. Il y a aussi une autre ressource à laquelle je pensais, moi, c'est Donjons et Dragons, qui est le grand-père de tous les jeux de rôle, que tout le monde connaîtra, j'imagine. Si vous parlez anglais, sur le site wizards.com, il y a une petite section « Apprendre à jouer » avec des règles de base et un kit de débutants, en fait, que vous pouvez télécharger en PDF.
Alors, Patrick a utilisé un très très bon terme ici, c'est les règles de base. Parce que le truc existe depuis tellement longtemps qu'il a été étoffé. Et au bout d'un moment, si on essaye d'appliquer les règles telles qu'elles ont été étoffées pendant
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a été
un truc simple au départ. Hein.
Non, mais ça a été vrai pendant longtemps, mais ils ont sorti la troisième puis la quatrième édition et maintenant ils sont en train de travailler sur la cinquième, où justement l'idée était de repartir, de tout reprendre à zéro, de rendre la chose un petit peu plus dynamique, un petit peu plus ludique. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de bien pour débuter. Vous pouvez ensuite aller plus loin, mais on mettra le lien dans les notes de l'émission. Donc encore une fois, si vous parlez anglais, il y a ce kit de débutants qui est quelques pages, hein, c'est rien du tout, mais c'est pour voir si vous pourriez éventuellement prendre goût à ce genre de choses. Et puis sinon, allez dans votre boutique de jeux et jouets du coin. Je suis sûr qu'il y aura des gens compétents qui seront capables de vous recommander la chose.
Alors, mais pour être honnête, le meilleur moyen de tester, c'est de tester avec un maître de jeu confirmé.
C'est sûr.
Finalement, ça permet
tout dépend de lui. Quoi.
Oui. Ouais. C'est un peu, mais là aussi, c'est un petit peu le piège, quoi, parce que mine de rien, tu peux tomber sur un mauvais maître de jeu et
ça m'est arrivé.
Je me souviens qu'on était. C'était qui le champion de France
de France. On ignorait qu'il y a un champion champion de France déjà de jeu de rôle. C'est très très étrange. Et c'était assez
un champion.
Mais visiblement, à l'époque, et on était tombé. Alors on s'était dit, waouh, on va faire une partie avec lui, ça va être incroyable, immersif, machin.
Oui,
on était tous ressortis. Bon, c'était dans les années 80, hein, en même temps. bref. Bon. Donc, c'est un loisir. Je suis content que t'en parles. C'est un petit peu en dehors de ce qu'on fait d'habitude dans Positron. Là, c'est vraiment l'émission du n'importe quoi. Mais c'est un loisir qui a vraiment fait ma jeunesse et développé mon imagination et mon. Enfin, j'ai vécu dans tellement d'univers, en grande partie des univers que t'avais créé toi, Gabriel, tellement d'univers différents, des trucs qui ont peuplé mon quotidien, que c'est vraiment des souvenirs et que j'aimerais que les gens qui nous écoutent découvrent et vivent ce genre de sensations. Il y a plein de gens qui jouent encore aux jeux de plateau, aux jeux de rôle, à ce genre de choses, donc je suis sûr que vous pouvez trouver des moyens de vous y mettre aussi.
C'est très atypique finalement à une époque où le jeu vidéo offre des sensations absolument extraordinaires. Je me dis pourquoi j'irais chercher un truc avec rien du tout, une feuille de papier, un crayon. C'est très différent. C'est un peu complémentaire et c'est vraiment une expérience quand on arrive finalement à le faire dans des conditions sympas.
Tout à fait. Donc voilà, les jeux de rôle et Donjons et Dragons en particulier. Bon, je dis Donjons et Dragons, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont sympas. Bah écoutez, ça nous amène à la fin de cet épisode. Et comme toujours, vous vous souvenez, hein, maintenant c'est la troisième fois.
Et là.
Non, c'est
pas moi qui vais
voir. Non, attends. pas tout de suite, attends. Donc, je vais donc demander à Daniel de nous dire. Non, attends, pas tout de suite. Attends. Donc, à Daniel de nous dire.
Je suis prêt.
Bon, ok, vas-y, j'abandonne.
Oh, j'y vais?
Bon, alors, Daniel, dis-nous où on peut te retrouver.
Oh la vache.
Bon, je reprends les choses en main, parce que là, c'est le bordel, quand même.
Ouais, vas-y, donc, c'est vraiment n'importe quoi, cet épisode.
Quand vous voulez,
vous pouvez me retrouver sur danielb.fr. Vous pouvez un petit peu écouter les chansons que je fais.
Mais plus que ça, mais ton nouvel album.
Oui, c'est ça, avec mon nouvel album qui est sorti le 17 février, avec plein de chansons dedans.
Bah, écoute,
je suis perdu à cause de vos conneries.
C'est pas mal, c'est pas mal. Sur
des émissions, en fait, ça devient de plus en plus.
C'est ça. Mince,
exactement. Ouais, c'est ça.
Donc, danielb.fr pour le dernier album de Daniel Béja, des chansons d'une grande qualité et d'une poésie qui vous surprendront peut-être. Enfin, je dis peut-être, oui, parce que.
Il n'y a pas tellement de jazz manouche. Il y en a un petit peu, mais.
C'est très très différent de ce que tu fais, de ce que tu faisais avant. Hein. Franchement, moi, quand tu m'as sorti cet album, tu m'as dit hey, « Regarde, je suis en train de travailler sur un album solo, chanson, vas-y, écoute ça. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu abandonnes Django ?» Non, c'est vrai que c'est très personnel. Quoi.
Complètement fanatique.
Ouais. Très bien, donc danielb.fr. Et donc, Gabriel, pour ta part, où es-tu sur Internet ?
Où suis-je ? Je suis sur Facebook, forcément, avec une page officielle où il faut faire « j'aime » parce qu'on aime beaucoup. Une page moins officielle qui est ma page perso, sur laquelle vous pouvez me demander comment ça marche très bien. Twitter, où je suis pratiquement jamais, mais j'essaye d'y être.
Bon, on va arrêter de dire Twitter, parce qu'à chaque fois, on dit « ouais, Twitter, mais j'y suis pas ». Donc,
je vais poser maintenant une question.
Non, attends, avant que tu poses une question.
Tu vas trop vite.
Avant, je veux quand même rappeler que ton dernier livre, La maîtresse de guerre, est disponible aussi en version numérique et que il est très très bien et que donc vous pouvez aller le télécharger immédiatement. Par exemple, hein, au hasard, si vous voulez faire quelque chose.
Oui, ça me paraît bien immédiatement.
Ça s'appelle La maîtresse de guerre. Donc, en fait, c'est presque, on a 5 recommandations dans l'émission. On a les 3. Donc, Hit Record, Django et les jeux de rôle. Et l'album de Daniel B. Et La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. C'est très bien.
Oui, c'est bien. Alors maintenant, est-ce que je peux poser une question ?
Eh bien, écoute, j'attends, là.
Patrick, où est-ce qu'on peut te trouver, Julien ?
Bravo, Gabriel !
Yes,
je suis fier de toi !
Je l'ai fait, j'ai demandé.
Alors, pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle NotPatrick ? C'est bizarre. Eh bien, moi, je dis, je suis un génie du marketing, parce que NotPatrick, vous n'oublierez jamais. C'est comme Patrick, avec Note, juste
mais
avant.
Oui,
et ça y est, vous vous en souvenez.
C'est hyper sympa de dire « je suis NotPatrick ».
Exactement. C'est surtout
en
anglais.
C'est encore mieux.
En anglais, ça marche encore mieux. Donc, c'est NotPatrick sur Twitter. C'est frenchspin.com si vous voulez retrouver les notes de l'émission et d'autres émissions aussi que vous pourrez découvrir. Si vous aimez un petit peu le monde de la tech, ça pourrait vous intéresser. Il y a des questions d'applications mobiles et de recommandations d'applications mobiles et un autre podcast qui fait un résumé de l'actu tech toutes les deux semaines. Et quoi qu'il arrive, il y a les notes de cet épisode et les commentaires de cet épisode que vous pouvez venir nous faire. Et tout ça, c'est sur frenchspin.com.
Et oui, et moi j'invite tout le monde à interpeller Gabriel Katz sur Twitter, comme ça il l'utilisera un peu plus.
Bah, je suis pas certain, hein. Franchement, j'ai essayé. Donc moi j'ai essayé et ça ne l'y amène pas. Si tout à coup d'autres personnes se mettent à aller suivre et commenter Gabriel Katz sur Twitter et que tout à coup il répond, je vais quand même me sentir
jaloux.
Bah oui, un petit peu. Enfin, on se connaît depuis 40 ans, bref.
Bon,
allez, on va prendre notre retraite pour 2 petites semaines, mais on sera de retour dans un retour inattendu sur Positron dans 2 semaines.
Et on
vous
fait à Patrick
de grosses bises. À dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Salut.